Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un troisième entretien de cette série des clés pour vivre. Les intervenants, vous les découvrez depuis le début de la semaine. On peut dire qu'ils sont spécialistes de la relation, de l'accompagnement humain et responsables de la structure Révélance Co. Ce sont Isabelle et Benoît Dacre-Vreit. Bonjour à tous les deux. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Alors, on a parlé de l'art de l'écoute et l'importance de l'écoute pour prendre soin aussi de la relation, une relation en vérité, et la plus où on tombe les masques, voilà, pour que cette relation soit ajustée dans un acte aussi de cohérence. Et avec vous, vous allez nous donner quelques peut-être piqûres de rappel. Il est toujours bon de se rappeler qu'il y a des moments difficiles dans la vie, au quotidien, avec ses joies, ses peines et puis ses crises. L'objet aujourd'hui, c'est de traverser les crises sans détruire la relation. C'est le programme que je vous propose. Alors, comment traverser ces crises dans le quotidien de nos vies personnelles, professionnelles, amicales, conjugales, familiales? Et c'est avec vous, Isabelle, que nous commençons.
Alors, la crise, moi, j'accompagne pas mal d'adolescents, et la crise, elle est au cœur de l'adolescence. Et elle est là, alors, on parle de la crise de l'adolescence, il n'y a pas toujours des grosses crises, mais il peut y en avoir. C'est parce qu'en fait, l'enfant grandit, il a besoin de trouver une nouvelle relation. Il a une relation avec papa-maman, idéale, etc. Et tout d'un coup, il réalise que papa et maman, par exemple, ne sont pas parfaits. Ça va créer une crise. Il va falloir à la fois qu'il réalise qu'il est une personne autonome, indépendante. Il veut s'affranchir de ses parents. Il y a des crises. Et ça, cette crise, elle vient dire « J'ai besoin d'avoir une autre relation avec vous, papa et maman. » C'est ça, en fait. C'est pas que la relation est détruite, c'est que la relation va se transformer. Et c'est ça qui va être beau. Donc la crise va nous amener... la crise, c'est parce que c'est pas confortable. En fait, je suis pas confortable dans cette relation, donc ça crée une crise. Ça crée une tension. Ça peut créer des maux, voilà. Et c'est là, on voit qu'on va changer quelque chose. On va changer une façon d'être. On va exprimer qu'on n'est pas confortable sur ça. Et donc, c'est bon la crise parce qu'elle va nous faire grandir notre relation, évoluer dans notre relation.
La crise, elle fait partie de la vie et au-delà de l'adolescence, donc pendant toute notre vie, la crise arrive et ce n'est pas un échec. La crise, c'est une opportunité. Les deux idéogrammes chinois pour dire crise, c'est risque et opportunité. C'est les idéogrammes du risque et de l'opportunité. Parce que la crise, elle est bien là pour ça. À la limite, s'il n'y avait pas de crise, on ne changerait pas. C'est bien parce qu'il y a une crise qui génère un désagrément que ça nous met en mouvement pour changer. Et peut-être un des premiers risques et un des premiers dangers, c'est de vouloir éviter la crise. Vous disiez dans votre titre, comment gérer les crises pour éviter d'abîmer la relation. Mais la peur d'abîmer la relation peut conduire à une situation de crise larvée. À une situation qui dégénère parce qu'on va se suradapter de peur de décevoir, de peur de solliciter la relation, de peur d'être abandonné, d'être rejeté. Ça se manifeste au sein des couples, mais ça se manifeste aussi dans le milieu professionnel. J'ai connu un jeune manager qui... avait besoin de travailler son assertivité parce qu'il n'arrivait pas à s'affirmer. Il n'arrivait pas à dire non à ses employés. Il se laissait déborder, il n'arrivait pas à poser de limites et à faire respecter ses limites. Il n'arrivait pas à trouver légitime de poser des limites en disant « Non, ça je ne le ferai pas. L'employé a oublié un truc, elle est embêtée, elle a oublié les clés dans son bureau, il faut absolument débloquer le truc et tout. Et ben, il va repartir de chez lui à 21h pour aller rattraper le coup parce que fallait être le sauveteur, fallait être le sauveur. On se rend sauveur de l'autre. Et en fait, dans cette suradaptation, il y a deux choses qui se jouent. Il y a d'une part, on ne se respecte pas, Donc on ne répond plus à ses besoins et on va rentrer peu à peu dans des modes de stress qui font qu'on ne va plus être juste dans la relation, on ne va plus être ajusté. Et la deuxième chose, c'est que on ne permet pas à l'autre d'être pleinement responsable, d'entrer en responsabilité, d'être lui-même, en ne mettant pas cette limite, justement, en ne consentant pas à dire, ben non, je ne ferai pas tout. Et en fait, on voit que la situation qui est ressentie comme une situation de crise, parce que c'est une situation de tension, elle nous dit quelque chose de la relation. Et en fait, il fallait que ce manager aide ses collaborateurs à être autonomes, à être responsables, ne cherche pas à tout contrôler, à tout vérifier, à s'assurer que tout se passe bien, mais puisse leur rendre leur responsabilité. Ben dans le couple, quelquefois, il se passe les mêmes choses. Rendre à l'autre sa responsabilité dans le couple.
Vous suivez vous-même aussi de nombreux couples.
Oui.
Ouais. C'est un peu la même histoire qui se répète.
C'est une histoire qui est très, très courante. Les situations de crise qui révèlent en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc ce n'est pas un échec, donc c'est une situation à écouter.
On peut entendre que toute crise, alors dans la vie conjugale, on parle de tension, de conflit, mais vous soulignez tous les deux que la crise dit quelque chose qui peut être bon pour grandir au fond, et aller plus loin dans la relation.
Elle dit souvent quelque chose qui est bon. En fait, elle recèle une pépite.
Permettez-moi, mais si nos auditeurs, les auditeurs qui vous écoutent, on connaît ce sujet autour des crises, les crises de la vie, les crises autour de la quarantaine, ce sont des répétitions, voilà. Mais il est bon aussi parfois d'en reparler. Mais gardons cet aspect. Très positif de la crise.
Non, on grandit. Il ne faut pas l'édulcorer ni l'idéaliser, parce qu'il y a des crises qui sont douloureuses. Il y a des crises qui sont... je pense à un certain nombre de couples qui vivent cet épisode dramatique de l'adultère, cette trahison, cette blessure profonde de l'estime de soi et de la relation. On ne peut pas idéaliser. En revanche, ce que dit cet épisode, ce que révèle cet épisode, c'est souvent symptomatique d'une crise plus profonde et antérieure du couple qui n'a pas été qui a vécu des dysfonctionnements qui ont conduit à cet adultère. Alors ça n'excuse pas, ça ne donne pas de circonstances atténuantes à l'adultère, mais ça permet de comprendre que derrière, si le couple veut reconstruire, et beaucoup de couples veulent surmonter cet épisode là mais sont profondément blessés dans leur confiance mutuelle et dans la relation. Il y a des colères énormes qui ont besoin de se vivre, donc il va y avoir bien sûr besoin d'un pardon. Mais pour que ce pardon puisse porter ses fruits, il faut aller au bout de la compréhension. Comment, pourquoi en est-on arrivé là? Comment vivait le couple avant? Qu'est-ce qui se passait au sein du couple? Et finalement, permettre au couple d'être encore plus beau, encore plus fort après, parce qu'il aura aussi fait la mémoire, fait l'anamnèse et compris ce qui se passait dans son couple et comment le rendre plus solide, plus aimant, plus uni.
Alors une fois que la compréhension est posée, il y a certainement un deuxième mouvement. On n'aura pas le temps pour cette émission d'aborder le thème du pardon, mais on imagine ô combien qu'après avoir compris une deuxième étape, l'étape du pardon.
En fait, c'est majeur dans l'étape du pardon. Pour pouvoir pardonner et demander pardon, il va falloir quand même faire un peu la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est vécu. Et donc, Donc, en effet, il y aura bien la part des deux côtés de demander pardon pour l'un, de pardonner pour l'autre. Souvent, on le met dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui empêche de pardonner avant de recevoir une demande de pardon? Ça, c'est vraiment à chacun de faire ce chemin dans le pardon qui va nous amener d'abord à avoir une paix pour soi-même. Et si c'est mutuel des deux côtés, si le chemin se fait des deux côtés, on va aboutir à la réconciliation. Hein, mais voilà, ça va être important de pouvoir faire cette étape, ne pas la passer à côté. Hein, pas passer à côté. C'est valable pour les couples, c'est valable. Alors peut-être plus compliqué dans le monde de l'entreprise, mais pour les adolescents, on va voir qu'à un moment donné, ils vont revenir vers leurs parents en demandant pardon, voilà, et en ayant des explications, peut-être plutôt à l'âge du jeune adulte. On va revoir ça, par exemple.
Et ce consentement au pardon, il ne faut pas l'édulcorer, il faut le vivre en vérité, c'est-à-dire pas faire de faux pardon qui est une excuse rapide pour tourner la page, ni de pardon où je garde le dossier quand même bien au frais pour le ressortir la prochaine fois.
Ça, c'est pas un vrai pardon.
Et dans le monde de l'entreprise, ça se vit aussi. Alors peut-être qu'on va pas appeler ça du pardon, mais savoir consentir à l'erreur et à la fragilité, mais pour pouvoir reconstruire derrière et pouvoir le faire de façon positive, dans une attitude positive, il y a quelque chose de l'ordre du pardon aussi.
Alors, on entend bien depuis le début de la semaine que la relation à l'autre, eh bien, demande. Il y a une exigence aussi d'un travail, au fond, qui est personnel. Hein. Et pour toute crise, qu'elle soit collective ou individuelle, il y a aussi une démarche personnelle. Est-ce qu'on veut véritablement traverser la crise ? Voilà. Et si on traverse la crise avec tous les bons outils, vous avez donné divers exemples, et l'exemple d'une vie conjugale avec cette blessure aussi profonde de l'adultère, le chemin est toujours possible. Voilà. Donc il y a l'art de l'écoute pour entrer dans une véritable communication. Je vous propose à tous les deux de vous retrouver, si vous le voulez bien, dès demain à la même heure. Merci.
Mais avec plaisir, à demain.